Donc on va faire notre dernier cours Bezrat Hashem sur les Shlosh Esrei Midot, la Torah Nidreshet Bahem, ça veut dire les 13 principes de base pour étudier la Torah. Donc on a eu plusieurs principes qu'on a déjà étudiés, comme le Kol Sheken, le Kal Vachomer, enfin, plusieurs principes. Surtout, les principes ils interviennent surtout quand on a des collisions entre guillemets dans la Torah, ça veut dire on a un verset qui dit quelque chose, un autre verset qui dit autre chose. Qu'est-ce qu'on doit faire, lequel on doit suivre? Donc on a déjà expliqué 10 principes. On va passer au 11e principe. Le Chol Davar Shehi Bichlal. Vous avez page 35, numéro Yud Aleph. Donc le numéro Yud Aleph, il dit comme ça. Il dit, le Chol Davar Shehi Bichlal, toute chose qui faisait partie d'une généralité. D'abord, on traduit, après on explique. Veyatsa Lidon Bedavar Chadash. Donc toute chose qui faisait partie d'une généralité et qui a été exclue de la généralité pour nous apprendre un chidouche, pour nous apprendre quelque chose de nouveau. Alors, on va expliquer ce que c'est. Tu ne peux pas le ramener à la généralité. Jusqu'à ce que la Torah nous dise clairement qu'il est comme la généralité. Alors je vais expliquer, hein, c'est les termes un peu juridiques. Je vous donne un exemple. La Torah nous dit, par exemple, que le Kohen, c'est-à-dire que le Kohen avait accès à la Trouma. Il avait le droit de manger la Trouma. La Torah elle nous dit, dans la Parashat Acharemot, elle nous dit que un Kohen, lorsqu'il fait l'acquisition d'un esclave, d'accord, ainsi que ses enfants, donc c'est considéré comme ses enfants, em yochlou belachmo, ils ont le droit de manger le même pain que lui. Donc c'est-à-dire, l'esclave du Kohen a le droit de manger la trouma. Ça, c'est un premier verset. Donc, si on suit ce verset-là, on comprend que toute personne qui est née du Kohen a le droit de manger la trouma. Donc la question qui va se poser, c'est la fille du Kohen. A priori, la Torah n'a pas fait de différence si elle est célibataire ou si elle s'est mariée entre-temps. Puisque la Torah dit clairement, « Ve'ilit beto hem yochlu belachmo » C'est un exemple que je donne. Donc tout celui qui est né d'un Kohen a le droit de manger du pain du Kohen. Donc il aura mangé la trouma. Donc si on suit sur ce premier verset, ce verset de la généralité, on comprend que quoi? On comprend que la fille du Kohen, même si elle s'est mariée entre-temps avec une personne qui n'est pas Kohen, a le droit de continuer à manger la terouma. Ensuite, d'accord, est venu un autre verset pour nous dire, attention, la fille du Kohen, une fois qu'elle se marie, elle n'a plus le droit de manger la terouma. On est d'accord? Donc ça c'est la fille du Kohen, une fois qu'elle s'est mariée, elle n'a plus le droit de manger la terouma. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? On avait une personne qui faisait partie d'une généralité, on l'a exclue de la généralité. On est d'accord? Elle faisait partie de la généralité, c'est-à-dire...
Si se marie avec un Kohen.
Alors voilà, si se marie avec un Kohen, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc je répète, on avait une personne qui faisait partie de la généralité. Le fait qu'elle s'est mariée, on l'a exclue de la généralité. Le fait qu'elle s'est mariée avec un Israël, on l'a exclue de la généralité. Très bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant si elle divorce? Dieu préserve, ou si elle devient veuve? Donc,
Elle redevient Kohen.
Est-ce qu'elle peut manger la Trouma? Non. C'est ça le principe qu'on est en train de dire ici. Que toute chose qui faisait partie d'une généralité, donc la fille du Kohen, elle faisait partie d'une généralité, enfant de Kohanim, qui a été exclue, de la généralité, parce qu'on a dit que voilà, maintenant elle est exclue puisqu'elle s'est mariée, tant que la Torah n'a pas dit explicitement que si elle perd son mari, Dieu préserve, elle peut remanger la trouma, elle a le droit de remanger la trouma, puisqu'elle a été exclue de la généralité. Donc je relis le principe, comme ça maintenant on va revoir ça dans les mots. Pardon?
Elle était mariée à un Kohen.
Déjà, question déjà posée.
J'entends de très loin.
Question déjà posée.
Si elle était mariée à un Kohen, il n'y a pas de problème. Kod, elle n'a jamais été exclue. Kol davar shaya bichlal, v'yatsa lidon bedavar chadash. Toute chose qui faisait partie d'une généralité et qui a été exclue de la généralité pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc notamment dans notre cas, ça veut dire que la fille du Kohen, bien qu'elle est fille d'un Kohen, comme elle s'est mariée avec un Israël, elle peut lui manger. Iyatayachol la chazire le chlalo. Même si Dieu préserve, elle a perdu son mari, tu ne peux pas la ramener à son état initial, à la généralité. Achiachazirenu akatuv lichlalo beferouche. D'accord? Jusqu'à ce que la Torah me le ramène explicitement. Et c'est, effectivement, c'est ce que la Torah a fait. Parce qu'il y a un troisième verset par la suite qui est venu, qui a dit, la fille d'un Kohen, si elle s'est mariée, d'accord, avec un Israël, et qu'elle a perdu son mari, dans ce cas-là, le verset dit, elle retournera à la maison de son père. Pourquoi on a besoin de ce verset-là? C'est justement pour ramener cette fille-là à la généralité. On a compris ce principe? Ça, c'est le principe numéro 11. Principe numéro 12, Davar à la même Ignano, Vedavar à la même Isofo. Alors, Davar à la même Ignano, première chose, ça veut dire qu'il y a des choses dans la Torah, que quand il y a un verset dans la Torah qui n'est pas clair, il faut essayer de comprendre le verset, il faut essayer de comprendre le verset avec le contexte, d'accord? Ça veut dire avec le contexte des versets qui l'entourent. Par exemple, dans les 10 commandements, c'est écrit le titnov. Tu ne voleras pas. Hein, tu ne voleras pas.
L'esclave.
Reprochez-vous. Tu ne voleras pas, c'est pour vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire ne pas voler de l'argent, et ça peut vouloir dire ne pas voler, comme on a dit, ne pas voler l'esclave. Quelqu'un. Alors comment je dois comprendre? Donc on doit faire appel au contexte. C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est les 10 commandements. Dans les autres commandements qu'il y a juste à côté, qu'est-ce qui est écrit? Lotirtar, lotinaf. C'est écrit, tu ne tueras pas, et tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Ces deux-là, le meurtre et une personne qui a commis l'adultère, étaient passibles de mort. Alors que celui qui a volé de l'argent n'est jamais passible de mort. Donc c'est ça ce qui m'a aidé à comprendre que dans les 10 commandements, voler, de quoi on parlait? On parlait de quelqu'un qui a volé une personne, un rapt. Et que là, effectivement, il est passible de mort. D'où comment je l'ai compris? Je l'ai compris, mais ignano, ça veut dire en regardant le contexte, en regardant ce qu'il y avait autour. Que puisque dans les autres commandements qu'il y avait autour, c'était passible de mort, donc celui-là, il doit forcément aussi être passible de mort. Lequel est passible de mort? Le vol pécunier ou le rapt? C'est le rapt. Donc, on comprend que le tigna veut dire un rapt. Ça s'appelle un davar à la mède, mais ignano. Une chose qu'on a compris du contexte.
C'est pas que l'argent.
D'accord. Non, il y a un autre verset pour l'argent. Il y a un autre verset qui dit le tigno, vous ne volerez pas. Alors, c'est lequel pour l'argent? Voilà. Ça, c'est la réponse. Ensuite, Vedavar Halamed Misofo. Il y a des cas, d'accord? Il y a des cas dans lesquels on apprend de la fin. Ça veut dire quoi on apprend de la fin? Ça veut dire de la conclusion. Ça veut dire comme ça. Par exemple, dans la paracha qu'on lit, la paracha Kedoshim et la partie qu'on lit ici également l'après-midi d'Yom Kippour, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? La Torah, elle nous dit, une personne n'a pas le droit d'avoir des relations avec toute personne qui a un lien de parenté avec lui. Ah oui? Alors,
Les cousins.
Alors justement, qu'est-ce qui se passe avec les cousins? Qu'est-ce qui se passe avec ta femme? Sa propre femme?
Non, sa femme n'a pas
lien de parenté. Ah bah, lien de parenté? Sa femme? Alors on fait quoi? Alors ça s'appelle un davar à la maître d'Issofo. Pourquoi? Parce que là, Torah, d'abord, t'as mis une interdiction. Mais tu peux pas simplement dire, ah, ça y est, c'est interdit. Lui est la suite. Tu lis jusqu'à la fin, et là-bas, la Torah te dit, attention, quand je parle de la famille, je parle, voilà, le cousin est permis, un tel est permis. Donc, Davar, à la maître Misofo. Je peux comprendre ce que le premier verset voulait dire seulement une fois que j'ai fini le sujet. Davar, à la maître Misofo.
Mais c'est pas quand... toujours comme ça? On peut toujours comprendre quand on a fini la phrase.
Oui, hein. Oui.
Non mais des fois c'est
le paragraphe. Oui mais encore une fois, le problème qu'on a, hein, c'est que des fois, hein, les deux phrases sont contradictoires. Par exemple, on te dit, une personne n'a pas le droit d'avoir de relation avec toute personne qui a un lien de parenté avec lui. C'est écrit, ish el kol sheher besaro, el kol sheher besaro. Toute personne qui a un lien de parenté avec lui, elle a pas le droit d'avoir de relation. Et juste après tu dis, ah mais le cousin c'est permis. Et attends, tu te moques de moi ou quoi? Tu me dis le contraire. Je dis non, je te dis pas le contraire. J'étais simplement en train d'expliquer. Davar à la même Misofo.
Et pourquoi on n'a pas commencé par ce cas-là? Parce que c'est le cas général, non, ce cas-là. Ben oui.
C'est comme dans la cache-croûte.
On veut dire, on se cache la tête.
Dans la cache-croûte. On ne mangerait pas de thé.
Il faut s'habituer, c'est tout.
Non, mais c'est comme dans un paragraphe. Tu peux pas comprendre l'ensemble du paragraphe tant que tu l'as pas lu.
Oui.
Encore une fois, un mot du paragraphe.
Mais encore une fois, ce que je veux dire, ce que j'ai expliqué ici, c'est que ce qu'il y a de particulier ici, c'est que quand tu prends les deux phrases du contexte, d'accord, la phrase numéro A peut contredire la phrase numéro B. C'est pour ça qu'on te dit que tu n'as pas le droit de prendre deux phrases séparément. Et de dire, ah, puisqu'il y a deux phrases, alors ça veut dire qu'il y a une contradiction, alors contradiction, comme on l'a dit avant, tu fais sauter les deux. Non. Des fois, il n'y a pas de contradiction. Des fois, le verset est simplement en train d'expliquer. D'accord? Alors, ensuite, tu vois ce que je veux dire?
Comment? Non, moi, j'ai pas encore bien compris la différence encore entre le contexte et puis l'ensemble. Quoi.
C'est que, des fois, quand tu lis un texte, si tu prends la phrase A et la phrase B, elles se contredisent. Par exemple, oui. Phrase A, elle te dit, tu n'as pas le droit d'avoir de relation avec toute personne avec laquelle tu as un lien de parenté. Phrase B.
Première assertion.
D'accord?
Deuxième assertion.
Phrase B, elle te dit, attention, elle te dit, tu as le droit d'avoir des relations avec ta cousine.
Dans le même texte?
Même texte.
Ou à un autre endroit?
Non, dans le même texte.
Marié.
C'est la suite.
Donc, contradiction. Il y a un problème. Alors, tu dis, non, c'est pas une contradiction. Ça s'appelle Davar à la maître du Sofo. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu peux comprendre seulement une fois que tu as fini le texte. Tant que tu n'as pas fini le texte, c'est une fois que tu as fini la phrase B que tu peux comprendre ce que voulait dire la phrase A. Bon, c'est logique.
C'est logique.
Alors, Vechen Shnertuvim, on finit le dernier. Vechen Shnertuvim Achishim Zedze. quand on a deux versets qui se contredisent, jusqu'à que viendra, il faut attendre qu'il y ait un troisième verset qui vienne pour faire le shalom entre les deux. Alors, je vais expliquer, on va donner aussi un exemple concret. Par exemple, il y a un verset qui dit, Vayered Hashem alafna el roshar. Qu'à propos du, quand Dieu nous a donné la Torah, c'est écrit que Dieu est descendu sur le mont Sinaï en haut de la montagne. Bon. C'est-à-dire qu'il est descendu sur le mont Sinaï en haut de la montagne. Il y a un autre verset qui dit, juste après, quelques versets plus loin, Dieu il dit, Kimina Shamaim dibarti machem.
Alors.
Je vous ai parlé du ciel. Alors, il nous a parlé du ciel ou du haut de la montagne. D'accord? Pardon? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a deux versets qui se contredisent. Est-ce que c'est Mina Shamaim ou est-ce que c'est Alar? Deux versets qui sont presque l'un à la suite de l'autre. Il faut attendre qu'il y ait un troisième verset. C'est quoi le troisième verset? Le troisième verset, il va être seulement dans le Chumash Devarim. Et là-bas, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, Mina Shamaim ishmiacha et kolo liyasreka, vela aret seracha et ishua gedola. Le verset, il a fait le shalom entre les deux. Comment il a fait le shalom? Il a dit que Min Hashamaim ishmiacha et kolo liyasreka, que Dieu a fait entendre sa voix depuis le ciel pour t'éprouver. D'accord? Et sur la terre, il t'a montré son feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres termes, il y a eu les deux. Dieu s'est exprimé envers nous depuis le ciel. C'est-à-dire qu'on a vu quelque chose qui descendait du ciel. Mais en même temps, il nous a montré son feu sur la terre. Qui c'est qui a fait le shalom entre les deux versets? C'est un troisième verset dans le Chumash Devarim. Donc je relis dans les mots. Quand on a deux versets qui se contredisent, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a plusieurs fois c'est comme ça, hein. C'est seulement des exemples que je donne.
C'est assez souvent,
c'est très souvent. Il faut attendre que le troisième verset arrive et qu'il fasse le donc qu'il fasse le shalom entre les deux.
C'est voilà. Bien, donc la complétion.
Ok, donc là,
un bon mot là.
C'est deux versets.
Qui se contredisent à des endroits différents.
Ça peut être en différent, y a pas de problème.